Radio Okapi.
Le journal Belinda Bossouma.
Nouvelle attaque des présumés ADF la nuit dernière dans la chefferie de Bachou, territoire de Béni. Bilan, au moins 7 morts. Le chef des Bachou appelle l'armée à renforcer la présence militaire dans son entité qui subit des attaques répétitives des présumés ADF depuis quelques mois, dit-il. Nord Kivu toujours, il n'y a aucun risque pour la population par rapport à l'activité normale du volcan Nyamulagira. Dario Tedesco, expert de la MONUSCO dans ce domaine, vient ainsi confirmer les propos de l'Observatoire volcanologique de Goma concernant une éventuelle éruption du Nyamulagira. Et puis, procès de Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger Matata Ponyo et deux autres anciens coprévenus dans cette affaire. Quelle suite réservée à cette affaire ? Réponse avec notre invité, Maître Ruffin Louko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Madame, Messieurs, bonjour. Au moins 7 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque des présumés rebelles ADF la nuit dernière dans la chefferie de Bachou, territoire de Béni au Nord Kivu. Le chef de la chefferie indique que d'autres personnes ont été contraintes par les assaillants de transporter les biens arrachés aux habitants après l'attaque. Le récit de Sadiq Yaboubakar.
Cette nouvelle attaque a eu lieu dans le village Vuesi de la localité Mavuhu et au village Chisanga, proche de Mwalika, ancien bastion de l'ADF. Moïse Kipoutou, le coordinateur de la nouvelle société civile dans le territoire de Béni, affirme que les 7 victimes ont été décapitées. Ce bilan est confirmé par le chef de la chefferie des Bachou. Mwami Abdoul Kalemire III précise que 3 personnes ont été tuées dans la localité Mavuhu. 4 autres corps ont été retrouvés dans le village Tisanga. L'autorité coutumière des Bachou ajoute sans plus de détails que les assaillants ont contraint plusieurs habitants des deux villages de transporter les biens pillés. L'armée est arrivée sur place ce jeudi vers 3h du matin, après le départ des présumés ADF, fait encore savoir la même source. Le chef de la chefferie des Bachou appelle l'armée à renforcer la présence militaire dans son entité qui subit des attaques répétitives des présumés ADF depuis quelques mois. Le porte-parole de l'armée dans le Grand Nord qui vous confirme cette attaque. Cependant, le capitaine Anthony Mwalushai n'écarte pas la thèse d'un conflit coutumier qui, d'après lui, serait à la base de cette nouvelle attaque armée. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au sud Kivu, dans les hauts plateaux du territoire d'Ouvira, 2 patrouilles à longue portée ont été organisées hier, respectivement à Kaololo, dans le groupement de Muungu, et à Muramvia, dans le groupement de Bijombo. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire sur ces axes a été au centre de ces patrouilles effectuées par les FARDC et la MONUSCO. Fiston Goma, reportage.
Muramvia, situé à 25 km au nord de Bijombo Centre, plus de 20 personnes ont révélé que les FRDC ont arrêté 3 civils à Irango et demandent l'équivalent des $100 américains avant de les relâcher. Les acteurs locaux ont dénoncé 8 barrières érigées sur les chemins qui mènent de Muramvia dans les hauts plateaux vers la ville d'Uvira, où les passants payent par force chacun 1000 francs congolais. Les femmes ont témoigné qu'elles avaient peur lorsqu'elles allaient ramasser du bois de chauffage. Ces acteurs locaux ont été sensibilisés sur le mandat de la MONUSCO. Du côté Kaololo, des consultations promptes ont été organisées dans les villages Mugono et Nyakandongo. 3 bergers rencontrés sur place ont révélé que la situation sécuritaire était relativement calme. Cependant, sur le chemin du retour, il a été observé un mouvement d'hommes armés présumés Tuguaneo qui se dirigeait vers Birindiro. Ces combattants revenaient de Masango pour escorter des habitants qui allaient chercher des denrées alimentaires dans les fermes abandonnées dans la zone d'influence Maïmaï à Masango. Mardi dernier, la MONUSCO et les FRDC se sont réunis à Bijombo Centre pour prendre des mesures anticipatives conjointes de protection des civils et éviter les débordements de la crise des Mikenge à Bijombo. Les chefs des villages sont priés de sensibiliser les habitants à ne pas sortir pendant les petites heures et après le coucher du soleil. D'Uvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Okapi.
Nord Kivu, je vous le disais en titre, en plus de faciliter les survols réguliers des scientifiques au-dessus des cratères des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, la MONUSCO intervient et collabore avec l'OVG dans d'autres aspects logistiques pour la surveillance des activités volcaniques. C'est ce qu'indique Dario Tedesco, l'expert de la MONUSCO dans le domaine. Il confirme à son tour qu'il n'y a aucun risque pour la population par rapport à l'activité normale du volcan Nyamulagira. Des précisions avec Sifa Maguru.
Pour ce vulcanologue, cet appui de la MONUSCO, notamment les survols permanents des cratères à l'aide des hélicoptères, permet à l'OVG d'avoir des précisions et de comparer les données techniques des satellites avec la réalité directe dans les volcans. Dario Tedesco.
Le fait qu'on a la possibilité d'aller sous le Niragongo, par exemple, on est sûr qu'il n'y a pas d'activité, par exemple, même s'il y a une activité sismique. La même chose pour le Niamulagira, que c'est encore plus difficile, parce qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas monter. C'est trop loin, il y a des groupes armés, c'est très difficile pour l'OVG d'y aller. La possibilité d'aller et de pouvoir rester quelques heures, voire quelques jours. On a fait des missions d'une semaine avec d'autres scientifiques étrangers qui sont venus pour épauler l'OVG. Et là, on a la possibilité de voir des choses qu'autrement on ne comprendrait jamais. Et ils nous donnent vraiment la possibilité de mieux comprendre les deux volcans, de faire des mesures qu'autrement on ne pourrait pas faire. Et c'est des mesures seulement qu'on peut faire sur place.
D'après cet expert, les défis dans la surveillance de ces deux volcans, c'est qu'ils sont toujours actifs et qu'il est parfois difficile de trouver les changements des paramètres avant une éruption, comme dans les cas de l'éruption du Niragongo le 22 mai dernier. Pour ce qui est du plan de contingence, Dario pense que le plan existant doit être redynamisé selon les réalités des terrains, notamment la démographie et d'autres aspects. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, nous venons de l'apprendre, drame à Luambo dans le territoire de Kambov. La pluie torrentielle qui s'est abattue le week-end dernier a endommagé plus de 1000 maisons. On compte aussi des blessés et plusieurs milliers de personnes sans abri. L'administrateur du territoire de Kambov plaide pour une assistance en faveur des sinistrés dont la plupart passent nuit à la belle étoile. Le récit de Jean Gandou.
Ce drame est survenu alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur cette agglomération. D'après l'administrateur du territoire de Kambov, cette pluie n'a duré qu'une trentaine de minutes. Plus de 1000 maisons, dont 2 écoles et des églises, ont été touchées. Elles sont soit écroulées, soit encore qu'elles ont perdu leur toiture. On compte 23 blessés, dont 13 ont été transférés dans la ville de Likasi. Les autres sont soignés sur place à Luambo. Parmi eux, un enfant qui a été touché à la tête. Les élèves des écoles endommagées n'étudient pas. Et depuis, les sinistrés, pour la plupart, passent la nuit à la belle étoile. D'autres se sont retranchés dans leurs champs, s'exposant ainsi à d'autres risques. L'autorité territoriale de Kambov parle d'une catastrophe et plaide en faveur de ses administrés. Djoubek Moukabe.
Au moment où je vous parle, la population est en train de vivre dans des conditions anormales. Que les autres sont partis se réfugier dans le champ. Là où il y a des hits, la situation est vraiment catastrophique. J'ai déjà fait le rapport au gouverneur de province pour nous venir en aide, parce que c'est une catastrophe naturelle qui dépasse notre niveau. On ne peut pas laisser la population continuer à vivre dans cette condition, c'est l'exposer encore à d'autres maladies ou d'autres catastrophes qui peuvent arriver, parce que nous sommes pendant la saison des pluies.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Justice poursuit des audiences publiques au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana devant la haute cour militaire à la prison de Ndolo, ici à Kinshasa. Hier, un nouveau policier arrêté dernièrement à Likasi dans le Haut-Katanga a comparu. Il s'agit du prévenu Jean-Cy Moulanga qui a confirmé la présence de Chebeya et Bazana à l'inspection générale de la police la veille du crime survenu le 1er juin 2010, mais sans en savoir plus de la suite, dit-il. La cour promet de clore les débats avec les plaidoiries et réquisitoires le 1er décembre prochain. Maître Peter Ngomo, conseil des parties civiles, rend compte de cette audience au micro de Jeff Ngoy.
À l'audition du renseignant Jean-Cy Moulanga, c'est qu'il confirme bel et bien que Chebeya est arrivé à Ligier ce jour-là. Il est monté chez Paul Mulamboy et après, semble-t-il que sur ordre de major Christian lui transmis par Jacques Mugabo, il est parti les récupérer chez Paul Mulamboy et après, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et c'est pour nous dire que effectivement, un, qu'il y a eu l'existence de ces commandos, deux, que Chebeya était effectivement arrivé malgré les multiples dénégations du colonel Daniel Moukalaï, et que de trois, tous qui ont commis ces crimes ont été en fait primés parce qu'ils ont quitté d'ailleurs Kinshasa sans aucune feuille de route. Ils ont été hébergés, gardés par le général John Numbi et ensuite affectés dans les entreprises minières. La boucle est bouclée. Nous connaissons réellement maintenant tout ce qui s'est passé.
L'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a procédé hier à l'examen de l'interpellation adressée au gouverneur de province, mais ce dernier n'a pas répondu à cette action, puisqu'absent de la province depuis environ 2 semaines. Ainsi, les députés disent constater ce qu'ils qualifient d'outrage à l'organe délibérant et comptent saisir le chef de l'État conformément à leur règlement intérieur, disent-ils. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Ce mercredi 17 novembre était la date de victoire depuis que la lettre d'interpellation a été adressée au gouverneur Isa Tonzege. C'était en vue d'une évaluation à mi-parcours de sa gestion de la province. Mais ce dernier étant absent de la province, ne s'est pas présenté. Pour l'auteur de l'interpellation, le député provincial Kwangbo, c'est un outrage à l'organe délibérant.
L'attitude prise, l'outrage à l'Assemblée, c'est condamnable. Je pense que lui seul sait et il pourra en tirer les conséquences.
Justement, quelles en sont les conséquences?
Le règlement intérieur nous oblige à constater le fait, ou si vous voulez, le sabotage du gouverneur de la province vis-à-vis de la première section politique de la province, et en faire un rapport circonstancié, acquis de droit, au chef de l'État, au président de la République.
Achille Kouango précise que le document d'interpellation du gouverneur a été bel et bien réceptionné par ses services au lendemain de son vote le 29 octobre dernier. Mais le gouverneur de province, lui, séjourne à Kinshasa. Nos tentatives de le joindre se sont avérées vaines. Notons que le 12 décembre 2020, l'Assemblée provinciale avait déchu par une motion de défiance dans les mêmes circonstances avant sa réhabilitation par la justice. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Rendons-nous au Sud Kivu. Le gouverneur de province fixe l'opinion sur les frais scolaires dans les écoles maternelles et secondaires par un arrêté rendu public le 16 novembre à Bukavu. Il fixe le seuil à 3 $ et le plafond à 90 $ par trimestre. Comment cet arrêté est commenté sur place dans la province du Sud Kivu, Jean Kassami?
Pour certaines personnes, l'arrêté tombe à pic parce qu'il va contribuer à décanter la grève des enseignants. D'autres y voient le retour en force de la prime des tristes mémoires. Mugisho Maître enseigne dans une école publique de Bukavu.
Grâce à cet arrêté, ça permet que ceux qui ne sont pas payés aussi puissent avoir quelque chose, bien que ça vienne des mains des parents.
Les parents redoutent que les gestionnaires des écoles fixent les frais en recourant uniquement au plafond en cette période où les économies de plusieurs ménages sont déstabilisées par l'épidémie à coronavirus.
Ça ne nous surprendra pas de voir que cet arrêté ne soit pas respecté par le chef de département, parce que même pendant la période des examens, l'arrêté du gouverneur a toujours été bafoué.
Tout contrevenant à l'arrêté portant fixation des frais scolaires des élèves dans les écoles publiques et privées agréées et coopéra des sanctions. Yoï Bokete, provède de la province éducationnelle Sud Kivu 1.
Parce que l'arrêté est clair, il est stipulé que par rapport aux besoins des écoles, les frais sont fixés de 3 $ à 90 $.
Les enseignants des écoles primaires du Sud Kivu, eux, attendent les résultats des assises de Kisantu pour dire leurs derniers mots. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. La Croix-Rouge RDC dénonce la désaffectation et la vente illégale d'une portion de sa concession à la CENI par le gouvernement provincial. Il s'agit du terrain situé à côté de l'ANER à Bandunduville et occupé provisoirement par les différents services publics provinciaux depuis 1971. Selon la Croix-Rouge, la demande de restitution de ce terrain auprès de la province date de longtemps, mais cela est resté lettre morte jusqu'à ce qu'elle soit surprise de cette désaffectation et vente. Elle sollicite ainsi l'intervention de l'Assemblée provinciale afin d'être rétablie dans ses droits. Irène Boma.
Dans un mémorandum adressé au président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Donald Sindani, la Croix-Rouge Kwilu, qui s'est dit propriétaire de la concession désaffectée par le gouvernement provincial à Bandunduville, a déclaré ce qui suit.
Sommes saisis avec stupéfaction de la désaffectation pour la vente illicite d'une portion de terrain de la Croix-Rouge à la CENI. Nous faisons confiance à l'Assemblée provinciale qui pensons-nous prendre une résolution de la restitution de cette concession à la Croix-Rouge.
En réaction, Donald Sindani a rassuré en ces mots.
Soyez-en rassurés. Dès que le calendrier est adopté, nous allons instituer une commission d'enquête. Si la Croix-Rouge a raison, nous allons être ses premiers défenseurs pour qu'il rentre dans ses droits.
Pour sa part, Jean-Robert Mouyens, secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, apporte cette précision.
La CENI est propriétaire d'un terrain et ce terrain, nous l'avons acquis régulièrement en 2014 et les documents ont été donnés à la CENI. Le terrain n'a pas été vendu par le gouvernement provincial à la CENI, ce qui est faux.
Contacté, le porte-parole du gouvernement provincial du Kwilu a promis de réagir ultérieurement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Cette semaine à Bruxelles, une délégation tchadienne conduite par le Premier ministre Albert Paimi Padake a multiplié les contacts avec les partenaires européens. La délégation du gouvernement tchadien de transition est allée présenter les avancées de la feuille de route de la transition qui avait suscité quelques doutes des bailleurs de fonds, avancées qui comprennent par exemple le lancement de plusieurs pré-dialogues dans les campagnes ou dans les milieux politiques et militaires présentés comme un tremplin vers la préparation des futures élections. En Grèce, sur l'île de Lesbos ce jeudi marque l'ouverture du procès de 24 humanitaires qui collaboraient avec l'ONG ERSI, Centre international d'intervention d'urgence. L'organisation effectuait notamment des opérations de sauvetage des demandeurs d'asile et des migrants au large de Lesbos entre 2016 et 2018. Sur le papier, les accusés risquent jusqu'à 25 ans de prison, une peine potentielle très lourde qui correspond dans les faits à la durée maximale d'incarcération prévue par la justice grecque.
L'invité.
C'est depuis le 15 novembre dernier que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger Matata Ponyo et deux autres anciens co-prévenus dans l'affaire du procès de Bukanga Lonzo. Mais quelle suite alors réservée à cette affaire? Réponse avec notre invité, maître Ruffin Louko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, écrivain et chercheur en droit. Il répond aux questions de Jeff Ngoy.
Maître Ruffin Louko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce que l'affaire du procès de Bukanga Lonzo, dans laquelle était poursuivi l'ancien premier ministre Auguste Matata Ponyo, peut être considérée comme classée sans suite et qu'il est impossible à ce jour de juger les trois prévenus?
Merci beaucoup. Mais d'abord, classée sans suite, bon, évidemment, c'est un terme courant, mais ce n'est pas un terme des juges. Celui qui classe sans suite, c'est le parquet. Donc le juge, lui, ne classe pas sans suite. Si le juge examine une accusation et qu'il trouve que les faits ne sont pas établi, il fait ce qu'on dit, la décision d'acquittement, et il y renvoie des fins de poursuite. Ça veut dire la personne est renvoyée, ne pourra être poursuivie. Le juge a décliné sa compétence. Le dossier est encore entre les mains du parquet pour maintenant chercher le juge compétent.
Et est-ce que c'est un procès impossible? Il n'y aura plus rien? Les trois anciens prévenus ne seront plus jugés?
Non, mais c'est d'abord, nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt-là manque d'imagination.
Le droit était dit.
Bon, le droit était dit d'abord dans ce procès-là, la République qui est la première victime n'a pas été présenté.
Comment expliquer tout cela?
Alors donc tout ça, il n'y a aucun texte. C'est une vieille jurisprudence de la Cour suprême qui disait que non, devant la Cour suprême, il n'y a pas de constitution de parti civil. Il faut attendre. Mais cette constitution par des partis civils, c'était les partis civils ordinaires. Est-ce que la République aussi est une partie civile qui doit être rendue au même titre que les autres, notamment dans une matière spécifique de détournement et de corruption? C'est une question doctrinale. Il n'y a aucun texte de loi qui exclut. Cette jurisprudence a commencé avec les décisions de prise à partie. Lorsqu'on condamnait les magistrats prise à partie, on demandait que celui qui bénéficie de cette prise à partie ou le magistrat, pour demander des dommages et intérêts, il doit aller en grande instance. Et depuis, la jurisprudence s'est consolidée que non, devant la haute juridiction, il n'y a pas de constitution de parti civil. C'est ainsi que la défense s'est retrouvée dans un boulevard. Il y avait en face de la défense un ministère public qui n'a pas été à la hauteur de ce que la République attend de lui. Ce qui fait que la défense avait une sorte de boulevard. Rappelez-vous que le conseil qui a soutenu toutes ces exceptions-là a été balayé dans le procès d'Ikapend pour une exception qu'il a été opposée par le président de la Cour constitutionnelle qui, à l'époque, était avocat. C'était que ce conseil-là est avocat de la République et il ne peut pas comparaître dans des intérêts contre la République. Et c'est le même conseil
le
maintenant.
Le procès de 100 jours.
Le procès de 100 jours, c'est récent. Rien n'a changé. Donc tout cet ensemble-là, ça veut dire que l'absence de la République dans ce procès-là a été préjudiciable. Maintenant, on va fixer l'affaire qui est le juge naturel de Matata Ponyo. Matata Ponyo, maintenant, comme on dit qu'il est maintenant ancien Premier ministre, actuellement, Matata Ponyo a des qualités qui sont connues officiellement. Les autres, peut-être, peuvent se cacher, mais il a des qualités connues. Matata Ponyo est sénateur et le juge naturel des sénateurs et des députés, c'est la Cour de cassation, hier la Cour suprême. Matata Ponyo également enseignant, il a soutenu une thèse à l'IPC.
Il est professeur d'université,
ça veut dire il a l'équivalent du grade de directeur. Le juge naturel des directeurs de l'administration publique, eh bien, c'est la Cour d'appel. Il y a donc des juges naturels, mais le juge naturel des faits, des détournements, des corruptions et consorts, c'est le tribunal de grande instance, comme il a été le cas pour Vital Kamerhe. Maintenant, il y a donc trois juges naturels. Il y a le juge naturel des faits, le tribunal de grande instance. Il y a le juge de la qualité, comme on appelle la compétence personnelle, par rapport à Matata Ponyo, qui est professeur d'université, c'est la Cour d'appel. Mais Matata Ponyo, sénateur, c'est la Cour de cassation.
Mais s'il faut le juger, il faut le juger en quelle qualité?
Il faut le juger à la qualité qui a prééminence sur l'autre, c'est la qualité de sénateur. Parce que cette qualité-là est protégée, parce que là, il est
représentant. Les faits reprochés, il ne les a pas commis en tant que sénateur.
Voilà, donc c'est en tant qu'ancien premier ministre. Maintenant, la qualité de premier ministre tombe, parce que la qualité de premier ministre, l'ancien premier ministre, l'aura justifiable devant le grand essence. Maintenant, lorsqu'on le ramène en grand essence, que le grand essence se trouve bloqué par le fait qu'il est maintenant professeur d'université. Il a l'équivalent de directeur. On ramène à la Cour d'appel. Lorsqu'on l'amène à la Cour d'appel est bloquée par le fait qu'il est sénateur. La Cour d'appel ne peut pas juger le sénateur.
Donc, il est impossible de le juger.
Non, mais c'est la Cour de cassation maintenant qui reste. Celle qui va gérer cet ensemble de couvertures, de parapluies autour comment
gérer ça sur le plan judiciaire, sur le plan du droit.
Nous avons une jurisprudence abondante. La solution va sortir de la jurisprudence. Des cas que la Cour suprême, depuis 69 jusqu'à aujourd'hui, a déjà jugé dans ces matières-là.
Il y a une loi, la loi de 2018, qui protège tous les anciens présidents de la République et tous les anciens chefs des corps constitués. Cette loi leur accorde protection et avantages.
Nous avons plusieurs arrêts de la Cour suprême, de la Cour de cassation, qui avaient déjà posé que les cours et tribunaux, il y a même des textes de loi qui ont confirmé ça, que les cours et tribunaux, d'ailleurs la Constitution le dit, que les cours et tribunaux n'appliquent le loi que pour autant qu'elles soient conformes à la Constitution. Donc si la loi est manifestement non conforme à la Constitution, les cours et tribunaux ne sont pas tenus.
Ah, mais comment vous les admettre? Le procès Bukangalonzo n'est pas impossible.
On ne peut pas conclure à l'impossibilité de ce procès-là parce que tout simplement, il faut l'imagination.
On peut les appeler anciens prévenus.
Ils restaient à la disposition de celui qui les a amenés, ça veut dire les parquets. Voilà, donc match est cité.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, Maître Rufin Loko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il répondait aux questions de Jeff Ngoy Mulunda. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungmochinge, coordination de Noëlla Luzito, à la technique Jean-Noël Mokondo et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis.